Ce matin, dans les studios de Radio Royan, j'ai le plaisir d'accueillir Elewasi Agbejiji. J'ai essayé de ne pas écorcher trop votre nom pour cette présentation de La Chute Infinie des Soleils, un spectacle proposé par la Comédie de Valence, une comédie itinérante en Drôme-Ardèche, un spectacle qui sera présenté donc lundi 14 octobre à 20h à la salle des fêtes de Saint-Julien en Vercors. Bonjour Elewasi.
Bonjour.
Très contente d'être avec vous ce matin par téléphone, parce qu'il me semble que vous n'êtes pas de la région.
Si, je travaille avec ma compagnie est basée dans la Drôme et pas loin de Grignan, donc on se déploie sur le territoire drômois quand même. Bon, on est à côté, quoi, on va dire.
Ah, on n'est pas si loin, alors.
Ouais, c'est ça.
Alors, on va prendre le temps de vous rencontrer, parce que peut-être que les auditeurs et les auditrices de Radio Royan Vercors vous connaissent pas. Et puis après, on va un peu se pencher sur cette production, La Chute Infinie des Soleils. Mais alors, d'abord, ce que je sais de vous, c'est que vous êtes du Togo et que vous êtes auteur, acteur et metteur en scène. Ça veut dire que vous passez autant par l'écrit que par la mise en scène de pièces, mais peut-être vous avez commencé d'abord par l'écrit ?
Oui, alors c'est dans l'ordre, si vous voulez. Ça a commencé avec le jeu, donc j'ai commencé par être acteur d'abord, dans un premier temps, déjà à l'université, puis dans une troupe professionnelle. J'ai débuté vraiment au Togo, à Lomé, qui est la capitale du Togo. Et après, je suis passé à la mise en scène quelques temps après. Et je faisais les deux parallèlement, puis j'ai tourné dans certaines productions en France, des productions assez conséquentes, notamment avec David Bobet, Roméo et Juliette et Lucrèce Borgia, surtout, et puis d'autres productions. Et à un moment donné, j'ai arrêté de jouer, puis j'ai arrêté aussi de mettre en scène pour quelques temps. Je suis retourné à l'université pour faire un master en dramaturgie et mise en scène à Nanterre, Paris 10. Il faut savoir qu'avant ça, j'avais fait des études d'anthropologie à l'université avant. Donc, c'est un peu cette base-là qui se déploie plus tard dans tout mon travail d'écriture et de mise en scène, on va dire.
Du coup, l'anthropologie, c'est aussi ça la base, c'est-à-dire que c'est la science des hommes et comme un peu la sociologie, mais disons plus sur la question du vécu des populations. C'est ça qui vous anime, qui vous intéresse ?
Oui, plutôt sur on va plutôt centrer la réflexion autour de l'humain à l'intérieur de la société, à l'intérieur du groupe, là où la sociologie après les sociologues vont peut-être taper sur les doigts, mais la sociologie va plutôt étudier les phénomènes sur le point de vue du groupe. L'anthropologie va vraiment descendre dans l'humain à l'intérieur d'un phénomène.
On pourrait dire que vous êtes passionné de l'humain, alors ?
On peut dire ça, ouais, on peut dire ça. Et puis, et à côté, je fais du théâtre et quelque part, ça se rejoint parce que ce qui anime fondamentalement ou ce qu'on va rechercher, les questions qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on tient au milieu de tout ce qui est force autour de nous, que ce soit dans l'actualité, que ce soit par rapport à l'environnement, que ce soit dans nos liens familiaux, dans nos liens amicaux. Comment l'humain à l'intérieur de ça tient, et toute l'histoire du théâtre, tous les écrits de théâtre au final parlent de ça aussi.
Et du coup, le rapport à l'écrit, parce que je vois que vous avez publié plusieurs textes dans des éditions théâtrales, est-ce que c'est aussi une manière de comme continuer cette réflexion autour de l'humain, cette descente, comme vous dites, sur cette question assez profonde autour de comment l'humain tient? C'est quand même une bonne question, comment l'humain tient avec tout cet environnement qui le fait chavirer peut-être?
Oui, j'ai publié livres de théâtre chez Théâtral et puis d'autres livres chez d'autres maisons d'édition. Le dernier, c'est La Chute Infinie des Soleils, dont on va parler tout à l'heure, mais avant ça, il y a eu Transmettre, qui traite de la question de la langue et comment l'apprentissage de la langue, ou alors comment on oblige à désapprendre une langue, comment ça peut agir jusqu'à nos cellules les plus petites. C'est cette question-là qui se développe, puisque j'ai écrit du théâtre, donc c'est de ça que ça traite, oui.
Les questions de langue, c'est quelque chose qui vous anime également sur sur comment, je sais pas, ça forge une identité peut-être des personnes ou pourquoi est-ce que c'est ça qui vous anime sur transmettre. Alors on peut le dire à la radio, transmettre, c'est écrit pas comme la transmission, mais bon, peut-être ça joue sur ce vocable-là. C'est trans comme la trans et maître comme le maître ou les maîtres.
Oui, parce qu'il me semble que la première chose extérieure par laquelle on va identifier quelqu'un, c'est la langue que la personne parle. Quand on a quelqu'un en face de nous, quand tout à coup cette personne se met à parler coréen ou italien ou lingala, je peux moi me référer ou alors commencer à identifier la personne que j'ai en face de moi, d'une manière ou d'une autre, à les rentrer dans de grandes cases comme ça. Donc la langue, elle est, c'est quelque chose qui nous définit déjà vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de l'autre qu'on va rencontrer ou qu'on rencontre aussi. Donc sur la question de l'humain, la langue, elle est, ça reste un chapitre assez important, oui.
Un marqueur fort de l'identité et de comment on se présente au monde et comment ça va teinter les relations, certainement.
C'est ça.
Et du coup, si on va vers la chute infinie des soleils... Non, entre-temps, il y a eu un deuxième texte, que Si tu sors, je sors, c'est ça?
Oui.
Qui était si en sors, 2016.
Oui, ça a été publié avant Transmettre, chez Lanceman, qui est un éditeur belge. Et Si tu sors, je sors, parle de ce qu'on appelle le langage du pagne. Si vous voulez, le pagne qu'on identifie aujourd'hui comme quelque chose qui provient de l'Afrique au sud du Sahara, mais qui a une histoire qui remonte à bien plus loin, à d'autres endroits géographiques du monde, en passant par la Hollande, par l'Indonésie et tout ça. Et suivant les motifs, il y a un nom qui est donné au pagne, et ce nom fait référence à une situation particulière, qui peut être une réponse à une autre situation ou à un autre pagne, et si tu sors, je sors. Il s'agit d'étudier à quel endroit le propos articulé s'arrête et que le vêtement qu'on va porter va prendre le relais. Et ce texte, je ne l'ai pas écrit seul, je l'ai écrit avec un collègue et ami, un auteur qui s'appelle Gustave Acapour, on est deux auteurs à l'écrire.
Et du coup, un texte qui a été d'ailleurs lu au Festival d'Avignon dans le cadre du cycle de lecture RFI en 2016. C'était déjà une manière de mettre autrement qu'à l'écrit, c'est-à-dire à l'oral, avec une voix oralisée, ce texte-là, de passer déjà dans quelque chose de joué.
Oui, ça c'est un projet plutôt de la radio RFI et du Festival d'Avignon qui propose des textes comme ça, d'abord en lecture en face d'un public, puis la lecture du coup est retransmise à la radio plus tard pour les auditeurs, donc il y a les auditeurs et les auditrices, donc il y a quelque chose du texte écrit, de la littérature écrite, mais qui va après passer à quelque chose de d'oral. Et ça, c'est lieu de préciser aussi que pour moi, dans mon parcours, je suis arrivé à la littérature par les oreilles. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je n'ai pas lu de livres, pratiquement jusqu'après le bac. Après, j'ai lu des livres parce que j'étais au lycée, il fallait les lire pour les examens. Mais le plaisir de prendre un livre comme ça, de lire et de découvrir ce qu'il y a dedans, ça s'est arrivé très tardivement dans ma vie. Et ça a été provoqué par les chansons que j'écoutais à l'époque, parce que j'étais très, très fan du rap. Mmh. Dans certains types de rap, et ce qui, j'ai compris plus tard que ce qui me retenait dans le rap, ou qui m'attirait dans le rap, c'est quand même les textes, le rythme, les mots qui claquent et tout ça, et c'est tout cela qui va me parvenir par l'oreille, va m'amener plus tard à lire des livres. Et je tiens quand même à préciser à chaque fois que on a souvent tendance à oublier tout un grand nombre de personnes qui sont arrivées à la littérature par les oreilles, et c'est quand même quelque chose d'assez conséquent et important.
C'est hyper important de le rappeler. Nous, en tant que dans les métiers de l'audio et du sonore, on est beaucoup par les choses oralisées, et donc du coup par les oreilles. Et effectivement, c'est intéressant de voir que les parcours sont différents selon les personnes, les sensibilités, et que la poésie des textes lus, que ce soit dans le rap ou que ce soit dans le slam, que ce soit dans des chansons ou encore peut-être juste des livres lus, peut amener à avoir envie d'ouvrir un livre après, quoi.
C'est ça, exactement.
Et du coup, en 2024, dans la collection Lisière des éditions théâtrales, paraît La Chute infinie des soleils. Et là, pour le coup, on replonge en 1761 avec une frégate de la compagnie française des Indes orientales baptisée L'Utile qui fait naufrage sur l'île Tromelin au large de Madagascar. Et là, avec ce texte-là, on va plutôt parler de traumatisme et d'espoir, à ce que j'ai compris.
Alors, le texte et le spectacle s'appuient sur un épisode historique baptisé « Les naufragés de Tromelin ». On peut retrouver quelques documentations sur Internet ou des choses comme ça. C'est une frégate qui va embarquer clandestinement des Malgaches et va essayer de les amener en esclavage à l'île Maurice. Entre-temps, le bateau va faire naufrage pour des causes diverses et variées sur une petite île inhabitée à l'époque, enfin toujours inhabitée d'ailleurs, qui s'appelait à l'époque l'île des Sables. Et il faut savoir que l'île des Sables, c'est un bout de caillou au milieu de l'océan. C'est une île plate qui fait 1 km² à peine. En gros, pour faire le tour à pied, il y a besoin de 15-20 minutes, pas plus.
Toute petite île.
Ouais, et c'est une île qui se trouve malheureusement sur la route des cyclones et des tempêtes, donc qui est souvent balayée par des alizés comme ça toute l'année. Et quand le bateau a fait un naufrage, l'équipage va réussir 2 mois plus tard à fabriquer une embarcation de fortune pour sortir de l'île, mais l'équipage va laisser sur place les captifs et les captives malgaches, qu'on appelle communément des esclaves, mais qui sont pas encore en situation d'esclavage.
Mais qui vont le devenir, quoi, qui sont voués à l'être, ouais, quoi.
C'est ça, exactement. Et ils vont abandonner 80 personnes à peu près sur l'île en leur disant « Restez là, on revient vous chercher très bientôt. Mmh. » Sauf qu'on revient vous chercher, ça va prendre 15 ans, et quand les sauvetages vont arriver, 15 ans plus tard, on va retrouver que cette femme vivante et un petit bébé de 7 mois.
Et donc ça, c'est une histoire vraie, un fait historique réel.
C'est ça. Et donc la chute infinie des soleils va s'appuyer sur cet épisode-là pour... déployer toute la question de comment est-ce qu'on tient en se levant tous les jours, en se dire demain quelqu'un viendra, puis les jours passent et finalement 15 ans. C'est cette question-là qui va être au cœur du travail que je vais faire autour. Et aussi dans mon travail, j'essaie toujours, même si je m'appuie sur des faits historiques ou d'autres faits, mais comment aussi faire en sorte que ça puisse être entendu aujourd'hui et qu'il n'y ait pas une sorte de filtre historique entre ce qui est dit, ce qui est donné et ce qu'on reçoit. Donc l'actualiser au maximum. Donc tout cet épisode va être réveillé par un étudiant qui est en train de présenter un mémoire devant un jury, et c'est son sujet de mémoire. Donc ça se construit un peu comme ça, donc on a tout le parcours de cet étudiant-là aussi, et son rapport avec cette histoire, la situation aujourd'hui de cette île, et puis ce fait historique.
Et quand vous dites de ne pas mettre des filtres actuels, donc la présence de cet étudiant, est-ce que ça fait un dialogue entre 2023-2024 et cette époque-là, ou est-ce que c'est pour pas qu'il y ait d'anachronisme, en fait, qu'on calque des choses contemporaines sur cette histoire ?
Il y a un dialogue entre 1761, 1772 et aujourd'hui. Il y a un vrai aller-retour tout au long du spectacle, déjà, et aussi comment ce fait qui date de plus de, on va dire, de 250 ans maintenant, a une certaine continuité dans le vécu de certaines parties du monde de cette île encore aujourd'hui.
Et par rapport à l'histoire coloniale de Madagascar et puis la question de l'époque des Indes orientales et tout ça, est-ce qu'il y a une volonté de dénonciation de la question coloniale aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un écho ?
Alors on n'est pas, alors l'époque, on n'est pas encore dans l'époque coloniale, on est en pleine époque de l'esclavage, on est au 18e siècle. Et la pièce se concentre sur cette année-là, sur 1761-1772, et de ces malgaches qui sont sur l'île en attente, et puis de l'étudiant aujourd'hui. Donc on n'est pas encore sur la période, la question coloniale à proprement parler.
Mais du coup, ça peut faire quand même un écho avec aujourd'hui, où la question coloniale est toujours présente, enfin, est encore présente, ouais.
Oui, on peut faire un écho, on peut faire un lien. Quand là, je parlais de dialogue entre ce qui peut, ce qu'on appelle une filiation, c'est pas le bon mot, mais comment tout cela avance et continue encore aujourd'hui à l'heure où on parle.
Parce que la question coloniale et notamment décoloniale est assez présente aujourd'hui dans les questions des sciences sociales, mais aussi dans l'environnement politique. Donc peut-être que les spectateurs, spectatrices d'aujourd'hui vont avoir ce filtre-là en voyant la pièce, peut-être.
Peut-être, et ça, je laisse à chaque spectateur et spectatrice de faire sa lecture, parce que aussi pour mon travail, ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas, je ne cherche pas à donner des réponses en... je propose des faits, des questionnements, et je fais confiance aussi à l'intelligence du public, du spectateur, de la spectatrice, parce que l'endroit du théâtre, c'est l'endroit aussi où c'est le rendez-vous entre ce que les acteurs, les actrices sur le plateau donnent et ce que les spectateurs et spectatrices aussi viennent recevoir là où ils vont venir se tenir la main pour entendre ensemble quelque chose. Donc moi j'ai horreur de façon générale au théâtre qu'il y ait des leçons à la fin ou des choses comme ça, mais plus vibrer ensemble autour des questions, se questionner sur quelque chose, donner un temps d'essai, pousser à une réflexion plutôt.
Repartir avec des questions et des émotions, des choses qui bougent un peu dans le corps plutôt qu'un discours ou un pamphlet.
C'est ça, exactement.
Et alors du coup, comment s'est passé le travail autour de cette pièce pour donner un peu aux spectateurs l'envers du décor? Vous avez travaillé à partir d'archives? Comment vous avez travaillé la direction d'acteurs et d'actrices, de comédiens, comédiennes sur cette pièce?
Alors, il faut dire qu'il y a eu deux grandes parties pour la réalisation de ça. Il y a tout l'état de l'écriture. Déjà, c'est scindé en plusieurs parties parce que je crois que j'ai pris 3 ou 4 ans pour écrire la pièce. Parce que d'abord, comme je disais tout à l'heure, ma formation préalable étant l'anthropologie, il y a des réflexes de chercheurs qui sont restés. Donc avant d'écrire une pièce, je passe pratiquement 1 an, 2 ans sur des recherches dont j'étais à Madagascar, à Maurice, à La Rochelle, au musée de la Corderie Royale, rencontrer des archéologues, des anthropologues qui étaient sur l'île pour les fouilles, recueillir toutes les informations, déjà dans un premier temps.
Donc une vraie plongée dans le fait, quoi, dans le fait historique.
Exactement, exactement. Mm-hmm. Il y a une recherche qui m'a pris pratiquement un an et demi, avant et à partir des matériaux récoltés, écrire la pièce, qui, il faut le dire, n'est pas une pièce documentaire, mais qui va jumeler ou marier fait historique et fiction, parce que c'est quand même du théâtre que je propose, n'est pas juste des faits historiques. Il y a une part fictionnelle aussi à l'intérieur de ça. Trouver le mariage, le bon mariage entre les deux. Et après cela, il y a eu toute la seconde partie qui est l'étape de passage au plateau, avec les acteurs et les actrices, qui s'est en plusieurs étapes, aussi des étapes de recherche au plateau. Là, actuellement, en tournée, le spectacle se joue avec deux interprètes au plateau, mais pendant la recherche, on a eu à travailler des fois avec 10 comédiens, 10 comédiennes, avec des musiciens, des musiciennes. Là, on est passé par toutes ces étapes pour récolter toute la... Aussi pareil comme la recherche anthropologique ou scientifique, comment on va récolter des matériaux, même dans le jeu, dans la proposition de l'autre, d'aller regarder un tableau, de laisser d'autres acteurs ou actrices d'autres pays jouer la pièce, qu'on discute et qu'on va recueillir des idées pour venir étoffer le spectacle à construire. Et on a eu à faire pratiquement 5 ou 6 étapes de travail comme ça jusqu'à la création en janvier dernier au Célestin, à Lyon.
Et du coup, c'est travailler par improvisation, que ce soit pour laisser émerger l'aspect artistique une fois au plateau, que ce soit la lumière ou la création musicale et sonore, mais aussi le jeu. Vous laissiez des choses se mettre en place, puis après vous gardiez ce que vous trouviez pertinent ou ce qui vous plaisait par rapport au projet?
Oui, exactement. Moi, dans le processus de création, je procède par ce que j'appelle des explorations, c'est-à-dire qu'il y a des parties qu'on laisse à des groupes de collègues, que ce soit des gens qui sont en jeu ou en musique ou en lumière. Chacun propose ou donne à voir ce que cette partie convoque chez lui ou elle. et qu'on regarde tous, on en discute, on se dit « Ah tiens, telle idée est bien », des improvisations comme ça, et on construit petit à petit, en avançant pas à pas, jusqu'au spectacle final, mais vraiment à partir de propositions de tous les artistes autour de la création.
Comme une création collective, finalement, plutôt in situ, quoi, avec ce qui se passe, les vibrations dont vous parliez, peut-être.
Oui, on peut dire ça, oui. Et à la fin, moi, je suis juste comme celui qui dit, tiens, qui va coudre telle chose à telle chose à telle chose, polir un peu l'ensemble et voilà, et l'habiller, quoi, on va dire.
Et si on s'arrête, Elema Woussi, sur le titre, La chute infinie des soleils, c'est très poétique. Et déjà, ça amène tout un univers. Est-ce qu'on peut y entendre cet espoir de ces naufragés qui attendent les secours pendant 15 ans? C'est ça qu'il faut y entendre?
Oui, on peut y entendre cela. Après, le propre de la poésie, c'est de laisser chacun entendre ce qu'il ou elle veut, ou ce qu'il ou elle entend. Mais on peut forcément entendre cela. C'est ça le couteau en dessous, en tout cas, ce soleil qui se couche infiniment. On a l'image du temps qui passe sans arrêt, sans interruption.
Comme le jour qui se reproduit chaque jour.
C'est ça.
Je ne sais plus comment c'est ce film, là, le jour infini, ou bref. Quelque chose qui amène à une distorsion du temps, peut-être aussi pour ces personnes qui sont restées sur cette île pendant 15 ans. D'où est-ce que vous connaissiez ce fait historique avant d'avoir envie de plonger là-dedans? C'est quand même des choses qu'on ne connaît pas forcément, ou peut-être que vous aviez déjà connaissance de ce fait?
Je crois que c'est en 2015, j'étais en tournée, on devait jouer à Nantes, puis je me baladais comme ça l'après-midi, il y avait une exposition au Château des Ducs de Bretagne, je pense que ça s'appelle comme ça, si j'ai bonne mémoire. J'avais regardé le titre de l'exposition, c'était Tromla, l'île des esclaves oubliés. Mm-hmm. J'ai trouvé ça assez intriguant, et quand j'ai lu le résumé de l'exposition, j'ai été déjà heurté par l'utilisation de certains mots dans la description de ça, notamment le mot oubli. Oublié, parce que en se renseignant sur l'épisode, on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'oubli, ou sinon d'oubli volontaire, qu'on peut appeler le refoulement, parce que là, on est face à un cas d'abandon.
Oui, j'allais dire, est-ce que c'est plutôt l'abandon que l'oubli?
C'est justement, donc c'est tout est parti un peu de on va dire, de ce mini-choc que j'ai eu par rapport à l'emploi du mot « oublié » pour le titre de cette exposition. Et à partir de là, tout va s'enchaîner, me renseigner là-dessus et décider de travailler sur ça un jour.
Et La chute infinie des soleils, donc, qui a été créée en janvier 2024, qui est donc finie à ce moment-là, est-ce qu'il a déjà, cette pièce a déjà rencontré son public, ou là c'est les premières dates?
On l'a déjà joué à la création, on l'a joué une dizaine de fois au Célestin à Lyon, donc quand même 10 dates, 10 représentations dans ce théâtre avec une salle pleine tous les soirs. Et ça a rejoué plus tard dans la Drôme, à Valory, puis on est allé la jouer la pièce à Libreville, au Gabon, et là, elle part en itinérance, en tournée avec la Comédie de Valence. Donc, est-ce que la pièce a rencontré son public? La question, c'est, pour moi, il n'y a pas, le public d'une pièce n'existe pas, ou sinon, ça existe au fur et à mesure des représentations, au fur et à mesure que d'autres personnes arrivent. Et s'il faut que toute la terre entière voit ce spectacle, je dirais que son public, c'est la terre entière. Donc, on est en construction, et la pièce et son public sont en train de faire leur chemin.
De rencontres et de tissage ensemble, et ce sera à chaque fois différent, j'imagine, dans la réception du public, vu qu'on est sur des choses assez intimes, une expression artistique, et c'est à chaque fois différent. Et ce sera probablement le cas dans cette tournée de la Comédie itinérante de Valence, qui commence tout bientôt et qui passe à Saint-Julien-en-Vercors lundi 14 octobre à la salle des fêtes. Vous serez là?
Je Non, je ne serai pas là le 14. Moi, je ne fais pas toutes les dates, mais toute l'équipe sera là. Le comédien et la comédienne, l'équipe de la comédie de Valence sera là, même si moi, je ne suis pas là. Ce qui est le plus important, oui, c'est bien que j'aimerais bien rencontrer personnellement aussi d'autres personnes dans la tournée, mais je ne peux malheureusement pas être présent à toutes les représentations.
Et avant de se quitter, Eliwa aussi, est-ce que il y a d'autres projets pour vous après cette tournée et le fait que le spectacle là se diffuse, continue? Est-ce que vous travaillez sur d'autres choses?
Oui, je travaille sur d'autres choses. Actuellement, je suis en train de réfléchir à la suite de ce spectacle parce que je pense que c'est un grand sujet qui ouvre énormément de portes, qui peut ouvrir énormément de réflexions, même au-delà même du thème de l'esclavage ou de l'abandon et d'autres choses. Mais ça peut ouvrir énormément de fenêtres et le prochain projet, c'est de continuer à travailler sur la chute d'une fille de soleil pour un second volet.
Ah, un second volet. D'accord, donc voilà. Une suite à la chute infinie qui peut-être est infinie.
Oui, peut-être.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin de répondre à mes questions et de faire le tour, de plonger avec vous sur la chute infinie des soleils et certainement de donner envie aux spectateurs, spectatrices de la découvrir à Saint-Julien-en-Vercors le 14 octobre. Merci beaucoup et puis bonne suite de travail à vous.
Merci beaucoup à vous et à bientôt.
Au revoir.